France Inter.
On met au tiers油漆布的。
Je pulvérise de la peinture sur des meubles.
想是想过是，但是不适合。
J'ai envisagé de trouver un emploi dans ma région natale.
目前还在这里。
Mais je n'en ai pas trouvé.
肯定是。
Alors je travaille ici.
这里熟点嘛，经常在这里。
Maintenant je suis habitué.
就一直在这打工。
Nous voilà au cœur de l'usine du monde, dans des ateliers gigantesques, avec des ouvriers qui se comptent par centaines de millions, champions de la compétitivité. Ils fabriquent des objets high-tech, des robots, des vêtements, des voitures exportés dans le monde entier. La Chine est toujours la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Nous n'allons pas développer ici la guerre commerciale qui fait rage depuis quelques jours entre les deux pays avec ses droits de douane exorbitants imposés par Donald Trump. Dans ce reportage, la parole est aux Nongmingong, les paysans migrants ouvriers parmi les plus précaires en Chine, migrants en leur propre pays. Ils aiment la campagne où ils sont nés, mais ils ont dû s'exiler très loin de chez eux, dans les usines des mégalopoles chinoises, où ils sont devenus une main-d'œuvre bon marché, avec des conditions de vie qui peuvent être très éprouvantes.
J'ai quitté ma région natale depuis plus de 20 ans pour travailler en usine. L'une de nos enfants a vécu avec nous ici, mais l'année dernière, elle a dû rentrer dans notre région natale pour aller au lycée. Ce sont mes beaux-parents qui s'occupent d'elle. Je ne pourrai pas retourner à la maison dans le Sichuan cette année, parce qu'il faut 2 jours pour rentrer et 2 jours pour revenir. C'est trop loin, c'est vraiment très dur.
En Chine, dans l'usine du monde, la vie sacrifiée des paysans migrants, c'est un reportage signé Sébastien Berriot. Il nous emmène d'abord dans le sud du pays, à Shenzhen, la capitale des nouvelles technologies, avec ses gratte-ciels qui illuminent le delta de la rivière des Perles, face à Hong Kong, dans l'ombre des tours ultra-modernes, c'est un univers moins reluisant et très rude pour les ouvrières et les ouvriers.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Je suis en train de m'enfoncer dans un quartier où il y a des bâtiments qui sont très anciens. Ça ressemble à de grands entrepôts. Et je pense que la construction, leur construction doit remonter à plusieurs dizaines d'années. Et en fait, je m'aperçois que ce sont des usines qui fabriquent des composants pour téléphones portables, des GPS et puis aussi des écrans d'ordinateur. Et dans ces usines, il y a des ouvriers qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir travailler ici. Alors avec Ranou, ma traductrice, je vais essayer d'aller à leur rencontre. Je sais que le dialogue ne sera pas facile à établir, parce qu'en Chine, la présence d'un journaliste peut faire assez peur. Et là, tiens, on va rentrer dans ce café-épicerie, là, qui est juste au milieu des usines. C'est un commerce qui est très simple, apparemment, qui est fréquenté par les ouvriers qui travaillent dans le secteur. Et je vais m'approcher d'un groupe de 3 hommes. Ils sont assis autour d'une table sur de tout petits tabourets en bois et ils sont en train de boire des jus d'orange en bouteille.
Je suis parti de chez moi et je suis venu travailler ici à l'âge de 19 ans. J'en ai 38 cette année. Chaque jour, je pense à rentrer dans mon village natal. Il se trouve à 1300 km. Et je pourrais le faire seulement lorsque j'estimerai avoir gagné assez d'argent et que j'aurai remboursé mon prêt pour la maison et la voiture. Alors seulement, je rentrerai chez moi et je cultiverai la terre, le riz, le blé, le maïs. Je pense que la vie d'agriculteur est relativement agréable. Mais malheureusement, je ne gagnerai pas assez d'argent. Donc d'abord, il faut que j'économise. Je pense que je vais devoir travailler ici encore de nombreuses années, au moins 5 ou 10 ans. Et puis en plus, l'agriculture a besoin de moins de main-d'œuvre aujourd'hui. Parce que tout est récolté avec des machines. Et puis de toute façon, ma famille n'a pas beaucoup de terre.
Quand je n'ai pas d'enfants,
Au départ, ma femme et moi, on est venus travailler tous les deux à Shenzhen. Mais lorsque nous avons eu des enfants, ma femme est retournée à la maison pour s'occuper de
moi.
Parce que les grands-parents n'ont pas fait d'études et qu'ils ne pouvaient pas aider les enfants pour le travail scolaire. Et puis bon, à partir de 7 ou 8 ans, vous savez, les enfants, ils deviennent un peu rebelles. Et les grands-parents, c'est plus difficile pour eux de les contrôler. Comme tous les ouvriers, en fait, on a le droit de les envoyer à l'école ici, à Shenzhen, si on veut. Moi, je ne peux pas. Les frais de scolarité sont trop élevés dans les plus grandes villes chinoises.
Ils ont quel âge, ces enfants ?
Mon aîné a 15 ans et mon second a 9 ans.
Est-ce que ces enfants lui manquent ?
Ils
me manquent beaucoup. Je les appelle en vidéo une fois tous les deux ou trois jours. Mais si je les appelle trop après, ils vont finir par se lasser. C'est vraiment parce que les salaires dans les usines sont plus élevés que chez nous que moi je suis là. Sinon, pourquoi je resterais si loin de chez moi, de mes parents, de mes enfants ?
Je me tourne vers un deuxième migrant qui semble un peu plus timide. Il ne ressemble pas vraiment à un ouvrier. Il est vêtu comme un employé de bureau, pantalon noir et pull en col roulé.
Shenzhen est une zone développée et il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. C'est pour ça que les gens comme nous viennent travailler ici. Moi, j'ai quitté la campagne il y a plus de 20 ans. Et j'ai changé 5 fois d'usine. Cela fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans cette usine. Mais comme le dit un proverbe chinois, les feuilles mortes tombent et rejoignent toujours la racine. Ça veut dire que la plupart des ouvriers migrants retourneront un jour dans leur pays natal. En tant que simple ouvrier, nous avons des salaires très bas. En moyenne, 800 euros par mois. Les prix des appartements sont très élevés ici. Nous n'avons tout simplement pas les moyens d'acheter. Et au final, nous ne pouvons que retourner dans notre village d'origine.
Je m'éloigne un petit peu de la table pour parler de façon un peu plus discrète. Au départ, ces ouvriers étaient assez réticents pour nous parler. Et puis finalement, la parole s'est libérée. Du coup, j'en profite pour leur demander s'ils peuvent m'emmener à l'intérieur de leur usine. Tout de suite, l'un d'entre eux m'explique que ce n'est pas possible. Les portes sont surveillées par des agents de sécurité. Il me propose d'aller filmer lui-même son dortoir. Une dizaine de minutes plus tard, il revient avec les images. Il ne nous dit pas où ça se trouve exactement parce que montrer l'intérieur de l'usine à des personnes étrangères n'est pas du tout autorisé. Mais il nous donne quand même son prénom, Se Chang. Alors on regarde les images avec vous. On voit que c'est un lieu qui est très simple, qui ne fait pas vraiment envie. Il n'y a quasiment pas de meubles, pas de peinture sur les murs. Le béton est apparent.
On est trois ouvriers dans notre dortoir. Vous voyez, ça fait environ 25 mètres carrés avec des lits superposés. Le sol est en béton. Il y a un ventilateur au plafond, mais pas de climatisation. Nous devons acheter nous-mêmes d'autres ventilateurs, car l'été c'est difficile. Il fait 38 ou 39 degrés. Je loge dans ce dortoir pour économiser de l'argent. Je n'ai pas le choix. Les conditions de vie sont médiocres ici car on a tous des horaires différents. Certains ouvriers finissent tard, à 22h40. Donc j'attends qu'ils aient pris leur douche avant de me coucher, sinon ils me réveillent. Mais l'avantage du dortoir, c'est que je ne paye pas de loyer. L'usine nous fournit nourriture et logement, donc ça me permet d'économiser. Je suis venu travailler ici parce que je construisais une maison dans mon village natal et que j'avais des dettes.
Et dormir comme ça tous les soirs dans un dortoir lorsqu'on a 40 ans, on imagine que ce n'est pas facile. Est-ce que tous les ouvriers vivent cela de la même manière ?
Le dortoir dispose de pas mal d'espace pour trois personnes. Environ 30 mètres carrés avec des lits superposés, ce qui est tout à fait suffisant pour trois. Il y a également de l'eau chaude toute la journée, ce qui est très pratique. Et certains travailleurs préfèrent louer une chambre à l'extérieur parce qu'ils ne supportent pas les ronflements, ça les empêche de dormir. Mais bon, pour moi, ça va. Et puis le logement est gratuit, on ne paye que les frais d'eau et d'électricité qui sont déduits du salaire.
On disait tout à l'heure que certains d'entre vous ont fondé une famille. Est-ce que c'est le cas de tous les migrants ?
Dans l'ensemble, c'est très difficile pour les ouvriers migrants de se marier. Tout d'abord parce que le mariage dépend du destin. Mais surtout, il dépend de votre puissance économique. C'est-à-dire de l'argent qu'il faut avoir pour se marier. Aujourd'hui, les filles recherchent un garçon qui a une bonne situation financière, capable d'acheter une maison dans la région. Les filles sont très exigeantes. Par exemple, pour se marier, elles veulent une maison, une voiture et 25 000 euros. Au total, ça fait entre 92 et 105 000 euros. De nombreux ouvriers migrants restent donc célibataires et ceux qui se marient divorcent souvent ensuite. Leur vie n'est pas stable.
Il est désormais presque 18h. So Chang et ses collègues nous quittent désormais pour rejoindre leurs usines parce que c'est l'heure du repas. Ils vont manger sur leur lieu de travail. Il y a pas mal de migrants tout autour dans le secteur qui partent aussi dîner, beaucoup d'hommes. Mais il y a aussi des femmes parce qu'en Chine, il y a des millions de femmes qui ont aussi ce statut de travailleurs migrants. Je vais à la rencontre de l'une d'entre elles. On la remarque grâce à sa tenue de travail, un tablier à carreaux rouge et aussi un visage qui semble marqué par la vie, des cernes sous les yeux. Elle nous fait un grand sourire, signe qu'elle a envie de nous parler.
Je m'appelle Wang Qiming, j'ai 50 ans. Je viens du comté de Kaijiang, dans la province du Sichuan. J'ai quitté ma région natale depuis plus de 20 ans pour travailler en usine. Beaucoup d'ouvriers du Sichuan, dans le sud de la Chine, viennent ici pour gagner de l'argent. L'une de nos enfants a vécu avec nous ici, mais l'année dernière, elle a dû rentrer dans notre région natale pour aller au lycée. Comme nous ne sommes pas originaires d'ici, elle n'a pas le droit de suivre des études au lycée local. Ce sont mes beaux-parents qui s'occupent d'elle. Je ne pourrais pas retourner à la maison dans le Sichuan cette année, parce qu'il faut 2 jours pour rentrer et 2 jours pour revenir. C'est trop loin. C'est vraiment très dur. Le voyage coûte trop cher. En bus, ça ferait plus de 300 euros pour l'aller-retour. On ne peut pas payer.
On quitte le secteur des usines maintenant pour rejoindre à moins d'un kilomètre de là un autre quartier où vivent également des ouvriers migrants. Mais ceux-là refusent de rester dans les dortoirs et ils préfèrent louer leur propre chambre. C'est l'un des ouvriers rencontrés dans le café qui nous a donné l'adresse de son ami qui a fait ce choix. On arrive devant l'immeuble. Bâtiment là aussi très simple avec quand même un système de reconnaissance faciale pour ouvrir la porte de la résidence. 7 étages à monter, il n'y a pas d'ascenseur, mais le cadre est plutôt agréable et c'est un jeune migrant qui nous accueille dans son petit studio aménagé.
Ni hao.
Je m'appelle Lin Faming, j'ai 25 ans, je viens du comté de Jinta dans la province de Gansu, à plus de 2000 km d'ici. Moi, je ne veux pas loger dans un dortoir. J'étais déjà en dortoir pendant toute ma scolarité. Je veux avoir ma chambre, c'est un peu plus calme. J'ai un studio d'environ 15 mètres carrés, avec un lit, la climatisation, une armoire, une cuisine, un balcon et une salle de bain. Le loyer est de 145 euros par mois, charges comprises. Je suis arrivé à Shenzhen il y a 5 ans. J'ai réussi à devenir une sorte de petit chef. Je m'occupe des machines qui fixent avec de la colle les écrans tactiles des GPS des voitures. J'ai appris les gestes à faire en une journée. Je me suis entraîné pendant une semaine et après, j'ai commencé à travailler. Au début, tout allait bien, mais maintenant, ma famille me manque beaucoup. Ma mère me dit souvent de rentrer dans mon village natal pour y chercher un emploi parce que je suis tellement loin ici. Mais je reste pour le salaire qui me convient en tant que célibataire, environ 800 euros avec les heures supplémentaires. J'ai quitté ma région parce que là-bas je gagnais seulement 260 euros par mois.
Bye bye. Voilà, on va redescendre les 7 étages.
Ces ouvriers et ces ouvrières que Sébastien Berriot a rencontrés semblent tous résignés face à leurs conditions de vie et de travail. Pourtant, certains ont osé se rebeller ces dernières années. Pendant la crise du Covid, notamment, des employés de l'usine Foxconn de Zhengzhou s'étaient révoltés. Ils avaient cessé de fabriquer l'iPhone et déserté leur poste de travail. Le régime communiste de Pékin n'a alors pu ignorer que toute la puissance économique de la Chine dépendait de ces travailleurs migrants. Et depuis, le droit a un peu évolué. Il les protège davantage face à leur patron. Sébastien Berriot a maintenant rendez-vous dans une usine de Ruizhou, à une centaine de kilomètres de Shenzhen. C'est un matin d'hiver, il y a quelques semaines, alors que la plupart des ouvriers ont décidé de prendre leur congé pour le Nouvel An chinois.
Interception sur France Inter.
Là, je suis dans une usine qui fabrique des meubles. Ce sont des meubles en kit qui sont assez bas de gamme, et dès que j'arrive, ce que je remarque et ce qui me surprend un peu, c'est qu'il y a une certaine effervescence et je perçois même un petit peu de stress pour la patronne, Madame Hu. On est à la veille du Nouvel An, la patronne m'emmène dans son bureau pour m'expliquer tout ça devant une tasse de thé.
Il y a environ 30 ouvriers dans notre usine de meubles. Originaire de plusieurs provinces, du Jiangxi, du Yunnan, du Guangxi et du Hunan. Depuis le 10 janvier, ils quittent l'entreprise les uns après les autres. Ils me racontent que leurs neveux ou leurs nièces vont se marier et qu'ils doivent assister à la fête. C'est une manière pour eux de partir en vacances. Ils me disent aussi qu'il y a des travaux agricoles à faire dans leur maison natale, par exemple cueillir les camélias pour produire de l'huile. Je ne peux pas les forcer à rester, je n'ai pas le choix. Donc il ne me reste plus qu'à leur souhaiter bon voyage et leur dire de faire attention sur la route. Et pour la production ici, eh bien c'est moi qui dois trouver la solution. Si je ne leur accorde pas ces congés, ils démissionnent tout simplement. c'est ce que viennent de faire trois ouvriers de l'atelier d'emballage. Ce n'est pas bon pour nous. Ce que nous voulons, c'est que les ouvriers reviennent chez nous après le nouvel an et ne partent pas dans une autre usine.
Est-ce qu'ils revendiquent un peu des fois, ils manifestent pour avoir des augmentations de salaire, tout ça, de temps en temps ?
Il n'y a pas de syndicat ici en Chine, ce n'est pas comme à l'étranger. Mais les travailleurs savent s'unir pour faire grève. Alors nous devons discuter avec eux. Par exemple, je leur garantis un salaire minimum de 660 euros par mois. Mais s'ils travaillent plus, ils peuvent gagner jusqu'à 1 060 euros. Ils ont aussi accès à la sécurité sociale, soit la protection de leur région d'origine à la campagne, soit la sécurité sociale de l'entreprise. C'est à eux de choisir.
Aujourd'hui, on voit que votre usine est quasiment vide, la plupart des ouvriers sont partis en vacances. Comment vous faites pour assurer la continuité de la production ?
Les ouvriers sont partis en vacances, oui. Et nos clients, eux, envoient des emails tous les jours pour réclamer les marchandises. Alors on est obligé de faire appel au personnel administratif qui passe des bureaux aux ateliers. On demande aussi au personnel du marketing de faire de l'emballage. Je contacte également une agence d'intérim pour essayer de trouver de la main-d'œuvre. Et enfin ici, dans la zone industrielle, je demande aux patrons des usines voisines s'ils ont des ouvriers disponibles. J'ai réussi à constituer une équipe d'une douzaine de personnes pour charger les marchandises dans le dernier conteneur qui partira par bateau cet après-midi.
Maintenant, on est rejoint par le responsable du recrutement et lorsque sa patronne évoque les difficultés pour garder les ouvriers dans l'usine, je le regarde et je vois qu'il confirme de la tête, son visage paraît assez inquiet. Et là, on comprend que le recrutement ici n'est vraiment pas une mince affaire.
J'envoie les infos de recrutement dans des groupes sur le réseau social WeChat. J'ai au total plus de 1000 groupes qui recrutent des travailleurs. Vous voyez là, il s'agit d'un groupe WeChat pour les conducteurs de chariots élévateurs. Il y a un autre groupe pour les polisseurs de meubles et encore un pour les peintres. Si un employé démissionne, nous ne pouvons pas le garder de force, nous devons accepter. Et si nous voulons le garder, nous devons lui accorder une augmentation de salaire ou améliorer ses conditions de travail et de vie. Par exemple, dans le passé, nous n'avions pas de cantine. Les travailleurs partaient souvent et c'était une situation instable pour nous. J'ai donc décidé d'aménager deux chambres pour en faire une cantine et maintenant les travailleurs restent davantage chez nous. Il y a aussi le logement. Lorsque je suis arrivé dans cette usine, dans les dortoirs, il n'y avait que l'eau froide, l'électricité, un lit et rien d'autre. Pour retenir les travailleurs, j'ai équipé chaque chambre d'un ventilateur et d'un chauffe-eau. Les chambres des cadres supérieurs et des superviseurs sont équipées de climatiseurs. Étant donné que certains ouvriers sont amenés de leur région d'origine par les cadres, si ces cadres ne partent pas, les travailleurs ne partiront pas non plus. Le droit du travail chinois est désormais tel que les entreprises ne peuvent pas forcer les employés à rester s'ils veulent démissionner. Si le salarié veut partir, l'entreprise doit l'accepter. Auparavant, l'entreprise pouvait garder l'employé pendant un mois, deux mois, trois mois sans payer. Il ne pouvait pas partir. Mais maintenant, si l'entreprise ne paye pas le salaire, l'employé va directement au bureau du travail pour intenter un procès. Désormais, le droit est beaucoup plus favorable qu'avant à l'employé. Peu de travailleurs migrants qui ont commencé comme ouvriers parviennent à monter dans l'échelle sociale. Moi, au départ, j'étais comme les ouvriers ici. J'ai aussi quitté ma campagne pour aller travailler loin de chez moi. En 1999, je me suis éloigné de ma région natale pour travailler sur un chantier de construction et j'ai construit 8 routes. C'était un travail difficile. Nous avons été escroqués à de nombreuses reprises par des agences d'intermédiaires lorsque nous recherchions un emploi. Une fois, un intermédiaire nous a escroqués de plus de 9 euros. Ce qui, à l'époque, représentait un mois de frais pour vivre. J'ai aussi travaillé comme menuisier dans une usine. Le premier jour, je me souviens, j'ai tapé avec un marteau et je me suis enfoncé des clous dans deux doigts. J'ai pris des pinces, je les ai retirées et j'ai continué à travailler. J'ai exercé ce métier comme ça pendant un an. Puis l'usine a recruté des comptables pour calculer les salaires. J'ai réussi à passer un examen après avoir appris les 26 lettres de l'alphabet et quelques mots en anglais. J'ai travaillé à ce nouveau poste dans cette usine pendant 5 ans, puis je suis devenu directeur du recrutement.
On va descendre sur la chaîne de production pour parler aux ouvriers.
Je m'appelle Wang Liju, j'ai 52 ans. Je viens de Jian, dans la province de Jiangxi. Je travaille loin de ma famille depuis plus de 20 ans. Et là, je suis dans cette usine depuis 3 ans.
Mais c'est pas trop dur de faire ce métier, d'être loin de sa région?
Je pulvérise de la peinture sur des meubles. J'ai envisagé de trouver un emploi dans ma région natale, mais je n'en ai pas trouvé, alors je travaille ici. Maintenant, je suis habitué. Et surtout, nous pouvons travailler où nous voulons, changer d'usine en fonction des avantages et des salaires. Aujourd'hui, je gagne 1180 euros par mois.
Lui, il avait manifesté donc, en 2011. Est-ce que quand même la situation des migrants s'est arrangée depuis aujourd'hui? Ou il y a encore, on a vu qu'à Zhengzhou, il y avait des gens qui avaient protesté, tout ça. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des choses qui ne vont pas et qu'il faudrait un peu que les migrants soient aidés un peu?
Au premier semestre 2008, je travaillais dans une usine en tant que soudeur. La direction avait accordé à chaque employé une prime d'au moins 6,50 €. Mais à la fin du mois de septembre, l'usine a supprimé cet avantage. Les gens ont trouvé que ce n'était pas juste. Il y avait aussi beaucoup d'autres problèmes qui s'accumulaient. Et c'est ainsi que tout le monde s'est mis en grève. Les 46 000 travailleurs, de jour et de nuit, sont restés assis. Et personne n'a travaillé pendant deux jours. On a fait grève pour être mieux traité. Grâce à cette mobilisation, on a obtenu les repas gratuits et l'usine a construit une cantine. La gestion de l'usine est devenue conforme au droit du travail et à la fin, on s'est dit que la situation était devenue juste et acceptable. Aujourd'hui, il y a moins de grèves parce que les conditions de travail sont plus ou moins équitables dans toutes les usines. Avec le respect du paiement des salaires et des heures supplémentaires.
Il y a 300 millions de travailleurs ruraux migrants en Chine, ce qui représente un tiers de la population active du pays. Et la majorité d'entre eux ne rentrent dans leur village natal qu'une fois par an pour fêter la nouvelle année. Depuis février 2025, c'est l'année du serpent qui porte chance, selon une vieille légende. Sébastien Berriot a pu accompagner ces ouvriers migrants sur la route du retour chez eux. Pour eux, c'est un immense voyage, très joyeux. La plupart prennent le train. Nous voici maintenant en gare de Shenzhen, pleine à craquer ce jour-là.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
À quelques jours du Nouvel An chinois, j'ai choisi de me rendre à la gare de l'Est de Shenzhen. J'ai pas choisi cette gare au hasard parce que ici, il n'y a pas de TGV, il n'y a que des trains classique, beaucoup plus lent et donc moins cher. Et forcément, donc les migrants viennent ici pour prendre le train. C'est vraiment difficile de se frayer un passage entre les milliers de voyageurs et leurs bagages qui sont parfois très volumineux.
Nous allons voyager pendant 35 heures dans ce train. Pendant le nouvel an, tout le monde prend le train. Les billets sont tellement difficiles à obtenir. Je n'ai eu que des places assises, pas de couchette pour ce trajet. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de rentrer à la maison. Ça me fait du bien. Le simple fait de pouvoir rentrer, c'est déjà beaucoup. Pour le voyage, on a préparé la nourriture, des nouilles instantanées et du riz. Comme on va vers le nord de la Chine, où il fait froid, il nous faut aussi apporter des vêtements chauds, ce qui fait qu'on a beaucoup de bagages. Ça fait 7 ans que je ne suis pas retournée chez moi pour le nouvel an. 7 ans que je passe le nouvel an loin de mon fils. Alors là, toute la famille attend notre retour avec impatience. Nous, on s'apprête à faire plus de 20 heures de train là. Ensuite, on prendra un taxi pour rejoindre notre campagne. Et je vais devoir dormir assise dans le train, car nous, on n'a pas les moyens pour une cabine couchette. On arrivera demain à 13 heures. Mon boulot ici toute l'année, c'est de faire la cuisine pour la cantine d'un chantier pour des dizaines d'ouvriers. Je ne peux rentrer dans ma famille que pour le nouvel an. Le reste du temps, je dois travailler. Toute l'année ici, on vit dans des containers, mais ça va. On a une chambre très simple et des conditions de vie correctes. La pièce est équipée de la climatisation, il y a des toilettes et une salle de bain.
Moi, je fabrique des écouteurs Bluetooth dans une usine de Dongan, et moi aussi, toute l'année, je vis dans des containers. Là, je rentre chez moi pour voir mes parents et ma fille de 2 ans. Le train va partir à 17h aujourd'hui et arrivera après-demain à Longzhou à 7h du matin. C'est vraiment un très long voyage, mais les billets d'avion et de TGV sont trop chers. Enfin, le train classique me coûte quand même 100 € pour rentrer à la maison. Je reviendrai ici pendant le printemps, soit dans la même usine, soit j'en chercherai une autre.
Il y a les migrants qui prennent le train pour entrer dans leur région d'origine, mais il y en a d'autres qui vont faire ce voyage par la route. Là maintenant, j'ai quitté la ville de Shenzhen pour rejoindre tout au nord la capitale chinoise, Pékin, à plus de 2100 km. Et je monte en voiture avec une famille de travailleurs migrants. Alors eux, ils sont originaires de la province du Anhui, c'est dans le centre de la Chine. Ils travaillent tous à Pékin, ils sont ouvriers dans la construction ou bien agents d'entretien. Cette nuit, ils vont parcourir 1000 km. Et là maintenant, on est sur l'autoroute G3 qui sort de la capitale.
Je m'appelle Li Changfeng. Je suis originaire de Hubei, dans la province du Anhui. J'ai 55 ans. Ce soir, je rentre à la maison pour le nouvel an avec mon fils, ma fille et ma belle-sœur. Et je suis très heureuse. Ça fait une semaine que j'arrive pas à dormir, tellement je suis excitée en pensant au jour du départ. J'emmène pas mal de nourriture pour fêter ce nouvel an. J'ai acheté du bœuf, parce qu'à Pékin il est moins cher. J'ai aussi acheté de la viande d'âne, des pieds de porc et des légumes. Là, ce gros sac, c'est pour cette nuit. Parce que nous devons rester dans la voiture pendant 12 heures au total. On a pris à manger et à boire. Des nouilles instantanées notamment. Des fruits et des snacks. C'est la seule fois de l'année où je rentre chez moi. En dehors du nouvel an, je n'ai pas d'autres vacances. Et je trouve que c'est très dur de travailler comme ça, loin de chez soi, pendant une année entière. J'aimerais rester à la maison pour être auprès de mes parents, les accompagner. Mais je dois gagner de l'argent. Là, aujourd'hui, j'ai fini mon travail à 19h et on est parti tout de suite, sans perdre une minute. On arrivera à la maison demain matin. Chaque année, on roule la nuit. Comme ça, il n'y a pas d'embouteillage. Mon fils et ma belle-sœur vont se relayer au volant jusqu'au petit matin. C'est vrai que c'est fatigant. Mais je suis si heureuse. Entre les péages et l'essence, les frais de voyage sont assez élevés. Environ 200 euros. Mais c'est le nouvel an. L'argent que j'ai gagné toute l'année est dans ma main. Et on va le dépenser comme on veut.
Et pour la première portion du voyage, c'est vous, donc le fils de Chan Feng, qui est au volant,
hein. Je m'appelle Zhu Xinwei. J'ai 33 ans. Je travaille sur les chantiers de construction. C'est moi qui conduis ce soir. Cet après-midi, j'ai fait la sieste et je me suis préparé à un thé bien fort pour ne pas somnoler au volant. Pour le moment, il y a encore pas mal de circulation, car on est toujours dans la zone urbaine de Pékin. Mais après, sur l'autoroute, ça ira mieux. Si jamais il y a des embouteillages ou de la neige, j'ai prévu un itinéraire bis, car nous voulons arriver le plus vite possible chez nous. Nous avons attendu un an. Le sentiment d'être chez soi est différent de celui d'être à Pékin, où je me sentirai toujours comme un vagabond. Si nous habitons à Pékin, c'est pour gagner de l'argent. On aurait préféré rester dans notre région, évidemment. Mais nous ne pouvons pas concilier les deux. Pour avoir une meilleure vie et assurer notre avenir, nous devons renoncer à quelque chose.
Alors maintenant, c'est 8 heures du matin, après une nuit passée dans la voiture et évidemment très peu de sommeil, c'est l'arrivée enfin au village et à la maison. Tout le monde a été averti par téléphone et je vois que les parents attendent devant la porte. Il y a des accolades qui durent plusieurs minutes. On ne s'embrasse pas parce que tout simplement ça ne se fait pas en Chine. Mais la joie est vraiment intense après un an de séparation. Le temps passe très vite, c'est déjà la fin de la matinée. Et on peut dire que le retour au pays n'est pas du tout synonyme de repos. Chang Feng est en train de s'activer dans la maison.
Merci, merci de nous accueillir.
Je suis contente. Je vais préparer des bons plats et des boissons. On a commencé à tuer les oies et on les a vidés pour les cuisiner. On est déjà une dizaine à la maison. Et tout le monde n'est pas arrivé. Attendez, laissez-moi compter. On est 6 personnes dans ma famille, plus la famille de mon mari, 12 personnes, et les autres beaux-frères et belles-sœurs. Ça va faire au total 25 personnes. Ah, là, regardez. C'est la famille de mon mari qui arrive. Je suis très détendue. Il n'y a plus de pression. Je peux faire ce que je veux ici. Je n'ai pas besoin de penser à aller travailler comme à Pékin. Je peux enfin parler à mes parents des choses de la vie. Quand je suis à Pékin, c'est compliqué au téléphone, car ils sont âgés et un peu sourds. Ils ont du mal à bien comprendre ce que je leur dis. Maintenant, je suis devant eux, je parle fort et ils m'entendent. Il y a un dicton chinois qui dit que les personnes âgées dans la famille, c'est comme un trésor. Lorsqu'une personne âgée est encore vivante, Nous, les enfants, on se doit d'être là au grand complet. Après la retraite, c'est sûr, je vais revenir vivre au pays natal. Ici, c'est ma maison après tout. Je vivrai à l'aise, je connais tout le monde. À Pékin, je connais personne.
Allez, Ranou, on va voir ce qui se passe dans la cuisine. À côté, c'est le mari de Chan Feng qui est en ce moment au fourneau.
Je m'appelle Zhu Mengge, j'ai 58 ans. Là, je prépare du poisson à la sauce soja et à côté, c'est du poulet braisé. C'est moi qui ai tué le poulet. Ce sont les spécialités de notre région. Cette volaille a été élevée par mes parents. Ils ont quelques poulets et des oies à la maison. Ils les tuent pour que nous les mangions lorsque nous rentrons au bercail pour le nouvel an. Pour le moment, mes parents sont en bonne santé. Nous sommes loin d'eux, mais ça va. Je leur dis de ne pas faire de travaux parce que c'est trop fatigant. Ils ont plus de 80 ans. Bon, allez, on va manger.
Tout le monde est en train de s'agiter pour préparer le repas et mettre la table. Et en attendant, moi, j'en profite pour me rapprocher des beaux-parents de Chang Feng. Ils se sont assis sur de petits fauteuils pour se reposer. Ce que je remarque, c'est qu'ils sont enveloppés dans une épaisseur impressionnante de plusieurs vêtements parce qu'il fait froid. Hein. Il fait froid ici, dans la province du Anhui, et il n'y a pas de chauffage dans les maisons. Alors je regarde leurs visages qui sont très ridés, ce qui frappe, c'est que ces rides ne masquent pas la joie vraiment qui est visible, la joie et le bonheur de se retrouver en famille.
Je m'appelle Li Zefang, j'aurai 84 ans après le nouvel an.
Est-ce qu'elle est contente de voir son fils? Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle le voit arriver?
J'attends avec impatience qu'ils rentrent tous à la maison. Je suis si heureuse. Parce que d'habitude, il n'y a que mon mari et moi à la maison. Mais où qu'ils soient, et quelle que soit la ville où ils se trouvent, tant qu'ils gagnent de l'argent, je suis heureuse.
Moi, je m'appelle Zhu Jianqi. Notre famille est une belle famille, unie. Les enfants, les belles filles viennent tous à la maison nous voir lors de la fête du printemps. C'est une grande réunion familiale. Ils ont tous du respect pour nous et nous aiment bien. Je ne suis pas triste d'être seul pendant l'année parce que l'important, c'est qu'ils aient un travail. Comme ça, nous, ici, on a l'esprit tranquille et rassuré. Nous devons juste prendre soin de nous pour qu'ils puissent travailler en toute sérénité sans se faire de soucis pour nous. Voilà. Non, je ne suis pas triste. C'est pas la peine d'être triste.
On quitte la première maison et Chang Feng nous conduit maintenant dans le bâtiment. D'à côté, c'est là où vit sa maman de 82 ans. Et depuis Pékin, elle sait tout ce qui se passe hein, ici, même si elle est à plus de 1000 km.
Il m'appelle tout le temps pour avoir de mes nouvelles. Je dis toujours que ça va bien. Ils ont installé une caméra dans la maison pour pouvoir suivre tous mes faits et gestes à distance.
Et oui, nous avons installé une caméra qui nous permet de la voir en direct sur nos téléphones.
Ça me fait tellement chaud au cœur de voir tous les enfants qui reviennent chaque année me voir pour le nouvel an. Ils me manquent. Et je suis vieille. Malheureusement, ils ne peuvent pas trouver de travail ici. Les salaires sont trop bas. Ça fait longtemps qu'ils ont quitté la maison pour aller chercher des emplois plus stables dans les grandes villes.
C'est dur de penser que dans quelques jours, je vais déjà devoir repartir. Je ne veux pas quitter mes parents et me dire que la prochaine fois que je vais les voir, ce sera dans un an. Ça me donne envie de pleurer.
Oh.
En Chine, dans l'usine du monde, la vie sacrifiée des paysans migrants. Un reportage signé Sébastien Berriot. Accompagné sur le terrain par sa traductrice chinoise, Ranou.
Chéchéni, bye-bye.
Zaijian, bye-bye. Fonsander.
À la réalisation, Gaëtan Colli. Attaché de production, Martine Messonnier. Mixage, Lucas Derode. Pour écouter ou réécouter tous les grands reportages de notre magazine de la rédaction, abonnez-vous au podcast d'Interception sur l'appli Radio France. 你好.